La première, l'histoire continue.
Bertrand N, Hélène Maquet.
Je suis entré dans le bâtiment, j'y ai vu beaucoup de morts et de personnes coincées.
Elle est revenue à la maison et m'a parlé des fissures dans le bâtiment.
Ces entreprises vont chercher au Bangladesh les prix les plus bas possibles, mais on voit à quel prix.
Dans le col de t-shirt, accroché à la ceinture des pantalons, prise dans les coutures des robes, l'étiquette des vêtements dit encore souvent « Made in Bangladesh ».
Longtemps, ça n'a été qu'une mention, trois mots qui n'indiquaient rien d'autre qu'une provenance, un pays lointain et mal connu.
Le 24 avril 2013, il y a tout juste 10 ans, la réalité a éclaté au visage du monde, lorsque le Rana Plaza, usine de confection qui travaillait pour de grandes marques de vêtements, s'est effondré.
Plus de 1000 ouvriers et ouvrières du textile sont morts ce jour-là. Des décombres d'une Rana Plaza a émergé une prise de conscience. Nos vêtements sont bien souvent fabriqués dans des conditions indignes.
Que reste-t-il de l'élan suscité par la catastrophe du Rana Plaza ? On reprend toute l'histoire depuis le début.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue.
Nous retraçons donc une histoire dramatique aujourd'hui, celle de la catastrophe la plus meurtrière qu'ait connue l'industrie de la mode et de l'habillement, l'effondrement du Rana Plaza, usine de confection qui travaillait pour de grandes marques occidentales.
Alors c'était le 24 avril 2013, il y a donc tout juste 10 ans. Ça semble à la fois très proche et en même temps c'est comme si une éternité s'était écoulée depuis cette époque. Il y a 10 ans, on ne parlait pas ou peu de fast fashion, on ne parlait pas ou peu de mode éthique, on ne parlait pas ou peu de questions environnementales liées à l'industrie de la mode. Le Rana Plaza a donc été un déclencheur et puis aussi un emblème de la lutte pour une industrie de la mode plus juste.
Pourtant, on peut très sérieusement se poser la question aujourd'hui, avons-nous tiré les leçons de ce drame qui en cachait en réalité des dizaines d'autres ? L'industrie de la mode s'est-elle modifiée ? Les conditions de travail sont-elles meilleures dans les ateliers de confection au Bangladesh et partout dans le monde ?
Alors, pour répondre à ces questions, nous recevons Sana Abdel Salem. Bonjour.
Bonjour.
De l'ONG Ashakt. Le Rana Plaza, c'est vraiment un emblème ?
Tristement, oui. Le Rana Plaza, c'est tout d'abord, comme ça a été dit, la catastrophe la plus meurtrière de l'industrie textile. Non seulement elle a révélé des enjeux de santé, de sécurité pour les travailleurs et travailleuses, mais ça a mis en lumière les conditions de travail déplorables des travailleurs et travailleuses. Mais c'est devenu aussi un emblème beaucoup plus large de ce qui se produit dans les industries qui ont des chaînes d'approvisionnement éclatées et qui vont aller faire produire leurs marchandises bien loin de nos regards et bien loin de leurs responsabilités.
Et nous avons justement discuté avec Saskia Bricmont, députée écologiste européenne, parce que le drame du Rana Plaza, il incarne aussi l'absence de régulation sur la responsabilité des entreprises par rapport à leurs sous-traitants qui se trouvent notamment loin, comme vous le disiez Sana Abdesalem. Une directive européenne sur le devoir de vigilance doit être votée dans les semaines qui viennent. Nous entendrons donc dans cette émission à ce sujet la députée écologiste européenne Saskia Bricmont.
Mais tout de suite, on se replonge dans nos archives, notamment grâce à des témoignages très forts qui avaient été collectés sur place à Dhaka il y a 10 ans par Marc Molitor et Patrice Hardy.
Le 24 avril 2013. Il est 9h du matin dans le quartier de Savar, au nord-ouest de Dhaka, capitale du Bangladesh. En cette fin du mois d'avril, il fait déjà étouffant. La poussière jaune qui monte du sol et vient se mêler à la pollution jette un voile trouble sur la ville. Depuis le troisième étage de son immeuble, M. Boshirula, cinquantenaire aux lunettes d'écaille, peut voir la course anarchique des voitures, des motos, des rickshaws en contrebas de son immeuble sur Arisha Highway. Depuis sa fenêtre, il aperçoit l'enchevêtrement des fils électriques qui viennent s'attacher, dans le plus grand désordre, aux immeubles Dekati qui bordent la route à deux bandes. Avec ses 8 étages, juste à côté, le Rana Plaza domine la vue. En contrebas, les quartiers de tôles ondulées serpentent sur des hectares. Monsieur Boshirula en est là dans sa matinée, quand tout à coup, le sol commence à trembler.
J'ai pensé d'abord à un tremblement de terre, que mon building tombait. Je n'ai pas pensé au Rana Plaza. Et puis en une seconde, un paquet de poussière et de fumée a envahi mon appartement et nous a aveuglés. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que le Rana Plaza s'était effondré. J'ai vu des gens s'engouffrer dans les bâtiments voisins. Ils avaient le visage ensanglanté, des bras et des jambes blessés. Ils demandaient de l'eau et de l'aide. On a commencé à les aider.
C'est la première seconde de dizaines d'heures d'efforts pour tenter de sauver les victimes du Rana Plaza. Plus les heures passent, plus l'ampleur du drame se dessine. Toute la journée, on a tendu des rouleaux de tissu depuis l'amas des décombres pour y faire glisser des corps, morts ou vivants. Une fois la nuit tombée, les réverbères qui sont restés debout illuminent le chaos. Les lampes rouges et bleues des ambulances traversent la foule, cette masse colorée qui s'élève vers l'enchevêtrement de béton et de fils électriques, cette foule qui tente de s'organiser, des morceaux de béton passent de main en main.
Je suis entré dans le bâtiment, j'y ai vu beaucoup de morts et de personnes coincées. J'ai réussi à en aider quelques-unes, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont incapables de sortir.
Un peu plus loin, les corps de femmes alignées, placées sous des draps blancs, dont dépassent les pieds et le tissu orange ou turquoise de leur sari. Déjà, il y a des dizaines de victimes. Alors que les ambulances tentent de se frayer un chemin dans la foule abasourdie par le drame, il n'y a presque pas de panique, pas de colère. La colère arrivera plus tard, quelques heures plus tard, quand on se rendra compte que tout ça aurait pu être évité. Quand on aura vraiment compris ce qu'il s'est passé ce jour-là à l'intérieur du Rana Plaza. Il faut remonter 24 heures plus tôt et comprendre les lieux. Cet immeuble de 8 étages. Au rez-de-chaussée, on trouve des commerces, une banque et une crèche. Aux étages, plusieurs ateliers de confection textile ont été installés. Jusqu'à 5000 ouvriers et ouvrières s'entassent dans cet immeuble chaque jour. Ils et elles vivent principalement dans les maisons de tôle ondulée de ce quartier de Savard, où ils et elles font vivre leur famille. Avoir un boulot dans le textile, c'est très dur. Mais c'est aussi l'espoir de parfois respirer un peu hors de la misère. En ce 23 avril 2013, pourtant, il s'est passé quelque chose. Quelque chose qui a inquiété tout le monde dans les étages du Rana Plaza. Sur le béton des murs gris, de grandes fissures noires sont apparues au troisième étage. Certains ont pris des vidéos. Ce n'est pas tellement étonnant qu'il y ait des fissures. Il paraît que les quatre derniers étages ont été construits sans permis. Tout en haut sont entreposés les générateurs qui tournent toute la journée pour produire le courant électrique nécessaire aux machines à coudre. Alors ce soir-là, en rentrant du travail, on parlait des fissures dans les quartiers de Tôle Ondulée.
Ma fille avait fini de travailler le 23 avril, à 10h du soir. Elle est revenue à la maison et m'a parlé des fissures dans le bâtiment. Le lendemain, je lui ai dit « n'y va pas, tu n'as pas besoin d'y aller ». Elle m'a dit « maman, je vais revenir tôt, c'est sûr, ils ne nous feront pas travailler aujourd'hui ». C'est pour ça qu'elle est partie sans se laver, même sans manger. Et voilà ce qui est arrivé. C'était plus qu'une fille. Elle était un peu comme le grand frère aîné, qui prenait tout en charge. Elle soutenait la famille, s'occupait de l'éducation des plus jeunes.
Le lendemain, les commerces, la banque et la crèche du rez-de-chaussée ont été évacués. La police a d'ailleurs ordonné que personne ne rentre dans l'immeuble. Alors les ouvriers et les ouvrières du Rana Plaza arrivent, la boule au ventre. Personne ne veut vraiment monter aux étages.
On avait peur d'y retourner le matin suivant, mais on a été forcés. Sinon, les salaires auraient été déduits. Le contremaître nous maltraitait physiquement pour nous obliger à rentrer. Ils nous ont poussés à l'intérieur.
Il n'aura fallu que quelques minutes pour que le drame survienne, à peine le temps pour les ouvriers et les ouvrières de s'installer devant les machines.
Le manager disait, pourquoi avez-vous si peur si le building ne s'est pas effondré hier, il ne s'écroulera pas aujourd'hui. Soudain, tout est devenu noir. Après le démarrage des générateurs, le premier pilier du troisième étage s'est encore plus fissuré. Et puis juste après, un terrible bruit. Je suis tombé face à terre, j'ai pensé, c'est la fin, j'ai perdu conscience. Après, je me suis réveillé, le plafond était à 20 cm de moi, et chaque fois qu'un étage tombait, je sentais la pression augmenter sur moi. Pas de lumière, pas d'eau, pas de nourriture, il n'y avait rien pour survivre. J'ai dit à Dieu, tue-moi tout de suite plutôt que me laisser mourir ainsi piégé dans ce petit espace. Et puis j'ai appelé, des gens à l'extérieur m'ont répondu, on va vous aider, il fallait enlever tout ce qui pouvait empêcher qu'on m'extirpe, même mes vêtements. Restez fort, disait-il, avec la volonté de Dieu, on vous sauvera. Pendant qu'ils m'aidaient, d'autres choses sont tombées et m'ont repoussé plus profondément. Mais en fait, je suis tombé dans une cavité plus large, d'où on a pu me sortir plus facilement.
Moi, je mettais les boutons quand c'est tombé. C'est tombé sur mon ventre et mes jambes. Et j'ai eu un doigt coupé. Mes jambes étaient recroquevillées jusqu'à la hauteur de ma figure. L'une était retournée. Ça s'est passé vers 9h. J'ai été secourue vers 16h.
Des milliers de personnes sont prisonnières de l'enchevêtrement de béton et de poussière. Les images font rapidement le tour du monde.
De terribles images filmées au Bangladesh. Un immeuble de 8 étages s'est effondré. Il abritait des ateliers de confection. Il y a une centaine de morts, un millier de blessés.
Le bilan, bien sûr, va s'alourdir terriblement. Et puis, il y a autre chose. La colère est en train de monter dans les rues de Dhaka. Parce que ce n'est pas la première usine textile qui s'effondre ou le premier incendie. Depuis des années, les ouvriers et les ouvrières de la confection réclament plus de sécurité. Alors dès le lendemain du drame, les rues de Dhaka sont noires de monde. Drapeau rouge à la main, le secteur textile manifeste.
Je considère de la manière la plus ferme que le gouvernement, les autres agences gouvernementales, le propriétaire du bâtiment effondré, toutes les entreprises qui ont participé à sa construction, chacun d'entre eux a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé.
Tout le monde a une responsabilité dans le drame du Rana Plaza, dit dans son mégaphone Ramesh Roy, secrétaire général du syndicat industriel du textile. Et tout le monde, ça veut dire encore bien plus que le propriétaire véreux de l'immeuble, que les contremaîtres violents de l'entreprise ou que l'administration locale. Ça fait des années que les ouvriers et les ouvrières du textile bangladais meurent dans les usines. Les drames s'enchaînent. Quelques mois avant l'effondrement du Rana Plaza, un incendie avait ravagé l'usine de Tazreen. 112 personnes y avaient perdu la vie. Au Bangladesh, dans l'indifférence totale, la situation est en train d'empirer. Sur le plateau du JT, Jean-Marc Caudron de l'association Achact a été invité pour expliquer tout ça.
Oui, la situation s'empire, la situation est extrêmement grave et urgente. Donc vous avez rappelé l'incendie de l'usine Tazreen en novembre qui a fait 112 tués. Une recherche que nous avons menée depuis lors a montré que sur les 2 mois qui ont suivi cet incendie, 28 nouveaux incendies d'usines se sont déclarés au Bangladesh, faisant 8 morts et près de 600 blessés. Au total, depuis 2005 et avant cet effondrement aussi, le nombre de morts au Bangladesh dans les usines d'habillement s'élève à environ 700.
Ici, avec la catastrophe de cette semaine, c'est 300 personnes qui ont perdu la vie et qui travaillaient pour des marques qui sont présentes ici en Europe, notamment pour Mango, pour Primark. Ce sont des marques qui ne sont pas suffisamment attentives à la sécurité des ouvriers.
Non, alors petite précision, donc on a des contacts sur place qui sont allés chercher des informations sur les clients des usines qui étaient dans ce bâtiment qui s'est effondré. Nous avons trouvé des traces de quatre entreprises présentes en Belgique, donc Carrefour, Benetton, Mango et Primark. Clairement, ces entreprises-là, mais comme toutes les entreprises qui s'approvisionnent au Bangladesh à l'heure actuelle, ne prennent pas la mesure des difficultés, des problèmes qu'il y a dans l'industrie, des problèmes de sécurité, de prévention incendie, mais aussi des problèmes de conditions de travail. Les travailleurs qui étaient occupés dans cette usine gagnaient 30 euros par mois. Ces entreprises vont chercher au Bangladesh les prix les plus bas possibles, mais on voit à quel prix.
Quel est le véritable prix de nos vêtements, de nos t-shirts, de nos pantalons? Le Bangladesh est la plus grande usine textile du monde et ce qu'il s'y passe n'est pas propre du tout. C'est aussi cette réalité-là qui émerge des décombres du Rana Plaza. Il y a comme un frémissement de prise de conscience. Un mois après l'effondrement du Rana Plaza, 31 marques de vêtements occidentales ont décidé de signer un accord. Un accord largement relayé partout dans le monde.
Elles se sont engagées à renforcer la sécurité des usines textiles au Bangladesh. Par exemple, un inspecteur sera nommé pour mettre au point un programme crédible et efficace. Mais cela va-t-il vraiment changer les choses ? L'Organisation internationale du travail y croit.
Ce qui va changer ou ce qui fait qu'il y a des chances que les choses changent, c'est que tout le monde fait des efforts. C'est une des choses positives qui ressort du drame de Rana Plaza. Il y a un nouvel engagement et une nouvelle conscience de faire les choses autrement.
Une nouvelle conscience de faire les choses autrement. C'est ce que promettaient les marques de vêtements au lendemain de l'effondrement du Rana Plaza. Au moins 1135 personnes ont perdu la vie dans ce drame.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand N.
Sana Abdesalem, vous êtes donc de l'ONG Achact. On a entendu dans le reportage, dans le récit, Jean-Marc Caudron à l'époque intervenir sur ce sujet également pour Achact. Donc au moment de l'effondrement du Rana Plaza, il y a une véritable prise de conscience. C'est un moment de rupture ?
C'est un moment de rupture, c'est un moment d'effroi, c'est un moment de choc. C'est des images qui sont d'une violence sans nom. Donc oui, ça suscite quelque chose.
Et en même temps, ce drame du Rana Plaza, est-ce qu'il était prévisible ? On entend dans le récit qu'il y a eu d'autres drames, dont un important à Tazrine quelques mois auparavant. Il n'y avait pas de contrôle dans les usines de confection au Bangladesh il y a 10 ans ?
Alors, effectivement, ça faisait déjà plusieurs années que les conditions de sécurité dans les bâtiments étaient connues. Tazrine est un exemple. Quelques années plus tôt, en 2005, c'était l'usine Spectrum qui s'effondrait suite à l'explosion d'une chaudière. Donc, on n'en était effectivement pas à notre première catastrophe. Et ça animait déjà beaucoup les organisations syndicales au Bangladesh et les organisations plus largement de défense des droits des travailleurs et travailleuses. Avec en tête l'idée de, enfin, déjà avant l'effondrement du Rana Plaza, de pousser, d'inciter les marques et enseignes qui s'approvisionnent dans ce pays à bas coût connu pour ces conditions précaires, mais de s'engager pour améliorer la situation. Voilà.
Et il n'y avait pas de contrôle est-ce qu'il y avait déjà des contrôles à l'époque ? Est-ce qu'on aurait pu dire cet immeuble-là, en fait, ça ne va pas ?
Et donc, l'inspection publique au Bangladesh est toujours relativement faible. Et ce qu'invoquaient les marques et enseignes qui s'approvisionnaient au Bangladesh et ailleurs, c'est une forme d'auto-régulation. Et donc, elles recourent à des audits et elles font auditer les usines dans lesquelles elles s'approvisionnent. Seulement, ces audits, ce sont elles qui les commandent auprès de sociétés privées d'audit. On sait aujourd'hui que c'est un marché extrêmement lucratif. L'immeuble Rana Plaza avait été audité moins d'un an plus tôt. Alors, pas sur les questions de sécurité du bâtiment. Néanmoins, le bâtiment avait été qualifié comme en bon état. Mmh. Et donc, on voit bien toutes les limites. Le Rana Plaza en est un, mais il y en a d'autres. Oui.
Alors vous avez parlé de prise de conscience, les marques qui sont concernées, dont les noms sont cités hein, dans le récit, on en cite plusieurs. Elles vont avoir évidemment un problème à régler, c'est que leur image va commencer à être atteinte. Le Rana Plaza, c'est ça aussi, c'est que les marques ne peuvent plus rester sans rien faire face à ça.
Exactement, mais c'est vraiment un exemple de l'opacité des filières d'approvisionnement des marques enseignes de mode. Mmh. Donc, parmi les marques qui ont pu être reliées au Rana Plaza, on en a compté 32 en tout, mais ça a pris plusieurs mois.
Oui, on cherchait dans les étiquettes, hein, on cherchait dans les décombres des étiquettes qui restaient pour essayer de comprendre quelles étaient les marques qui travaillaient avec ces sous-traitants-là.
Tout à fait. Donc, faut bien imaginer, hein, enfin, fouiller dans les décombres pour trouver des preuves. Enfin, c'est extrêmement difficile pour les activistes qui étaient sur place. Donc, en tout, ce sont 32 enseignes qui ont été reliées au Rana Plaza. Il y en a que 12 qui ont confirmé s'approvisionner au Rana Plaza. Ces marques n'ont jamais été tenues responsables légalement de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et pour certaines, elles ont justement invoqué l'éclatement de leur chaîne d'approvisionnement et elles ont, d'une certaine manière, mis la responsabilité sur l'entreprise sous-traitante de dire « mais c'est elle qui sous-traitait sans que je le sache ». Et ça, c'est absolument pas acceptable en réalité.
C'est aussi une des prises de conscience du Rana Plaza, du drame du Rana Plaza dans le grand public, auprès des consommateurs qui achètent des vêtements qui, pour beaucoup d'entre eux, sont produits dans des pays comme le Bangladesh. C'est le fait que, en réalité, ce ne sont pas les usines des marques qui sont au Bangladesh, ce sont des sous-traitants, c'est des très longues chaînes d'approvisionnement, effectivement, pour lesquelles parfois les marques ne savent même pas d'où provient exactement le produit qu'elles vont vendre.
À tort, elles devraient le savoir, effectivement. Ouais.
Ouais. On l'a entendu dans le récit, il y a une grosse mobilisation des syndicats sur place au Bangladesh. Les ouvriers, les ouvrières crient donc leur colère. Au niveau des ONG, il y a la vôtre, Ashakt notamment. C'est Jean-Marc Caudron qu'on entend dans les médias à ce moment-là et les revendications sont celles-ci.
La première revendication qu'on relaye de la part des travailleurs eux-mêmes, c'est simplement pour les entreprises qui s'approvisionnent dans l'usine qui a brûlé, dans l'usine qui s'est effondrée, c'est simplement s'engager à indemniser les travailleurs. Le gouvernement du Bangladesh, les employeurs du Bangladesh vont indemniser avec des montants très minimes les victimes. Il faut absolument que les marques assument leurs responsabilités et complètent cette indemnisation. C'est le premier point, je dirais, c'est le point de court terme. Deuxième élément, c'est que toutes les entreprises qui s'approvisionnent en vêtements au Bangladesh, tout simplement, signent un accord de prévention avec les organisations syndicales au Bangladesh qui rend obligatoire les inspections d'usines, qui rend obligatoire la rénovation des usines quand on découvre des problèmes structurels comme des problèmes de bâtiments, et surtout qu'elles s'engagent à financer ce programme de mise aux normes de l'industrie du Bangladesh.
Alors, deux revendications à l'époque, indemniser les victimes et fixer, mettre aux normes les usines pour prévenir les risques d'incendie, par exemple, et assurer la sécurité des bâtiments. Alors, Sana Abdesalem, est-ce que les victimes ont effectivement été indemnisées depuis ?
Oui, les victimes ont été indemnisées depuis. Il faut savoir que ça a pris 2 années. Oui. 2 années de mobilisation pour que les marques et enseignes, telles que le disait notre ancien collègue d'Ashakt, assument leurs responsabilités. Les victimes ont été indemnisées. Néanmoins, l'indemnisation, elle a été calculée sur base des salaires du Bangladesh. Et donc, les montants restent relativement faibles.
Oui, on entendait 30 euros par mois pour un ouvrier ou ouvrière à l'époque au Rana Plaza. Donc on imagine que les indemnisations ne sont pas effectivement assez élevées, si elles sont calculées sur ce salaire-là.
C'est ça, elles ont été indemnisées pour couvrir les frais médicaux et les pertes de salaire, et elles n'ont pas du tout été indemnisées pour les souffrances, la douleur liée à la catastrophe. Et ça aurait nécessité de pouvoir engager des procès, des démarches juridiques vis-à-vis de ces entreprises, et c'était impossible.
L'indemnisation ici, elle se fait en fait sur base volontaire des marques, sans passer par une procédure judiciaire ?
Donc l'indemnisation du Bangladesh, enfin du gouvernement du Bangladesh, c'est mis en œuvre par le gouvernement, mais la participation des marques et enseignes, ça s'est fait sur base volontaire. Effectivement, elles ont contribué à un fonds d'indemnisation selon les montants qu'elles ont estimés et poussés par la société civile qui sans relâche n'a cessé de les interpeller médiatiquement et autres pour qu'elles agissent.
Alors le deuxième point des revendications qui sont arrivées tout de suite hein, dans les jours qui ont suivi ce drame du Rana Plaza, c'est de prévenir les risques. On entendait à la fin du récit qu'il y avait eu un accord, que des marques avaient accepté, 31 marques à ce moment-là, au mois de mai, qui acceptent de travailler sur cette question de la sécurité. Est-ce que cet accord-là, il a été mis en œuvre ?
Tout à fait. Donc c'est un accord assez inédit qui a vu le jour quelques semaines tout juste après l'effondrement du Rana Plaza, qui s'est appelé l'accord Bangladesh à ce moment-là. Les prémices de cet accord existaient, en fait, précédaient la catastrophe.
C'est ça. Si la revendication arrive de manière aussi claire, en réalité, c'est parce qu'elle existait déjà.
En tout cas, la nécessité d'engager ces entreprises de manière contraignante et avec la participation des organisations syndicales sur place, tous ces grands principes pour agir de manière crédible et efficace sur la sécurité des bâtiments du Bangladesh existaient effectivement. Et donc, depuis 2013...
Et concrètement, elles se sont engagées à quoi, ces entreprises ?
Elles se sont engagées dans un programme, enfin à financer, un programme d'inspection, un programme de formation et un programme qui a des spécificités. Donc, elles engagent leur responsabilité légale dedans, puisque c'est un accord contraignant. Les syndicats sont partie de la gouvernance de ce programme et donc la voix des travailleurs et travailleuses est présente elle s'engage à ce qu'il y ait un mécanisme de plainte qui soit indépendant, un système d'inspection qui est indépendant. Ce programme, il a effectivement permis, puisque 31 entreprises étaient signataires quelques semaines après, enfin ce chiffre a heureusement rapidement augmenté, il s'est élevé à 200 entreprises signataires, il a permis de couvrir 1600 usines et donc plus de 2 millions de travailleurs et travailleuses.
Oui. Et est-ce que dans ces 200, on retrouve les plus grandes marques ? Je veux dire, pour le consommateur, la consommatrice, aujourd'hui, est-ce qu'on peut se dire que la plupart des magasins dans lesquels on peut aller chercher les vêtements participent ? Ou est-ce qu'il y a des grandes marques qui refusent toujours, qui sont en dehors du système, hein, je veux dire, de ce système-là en tout cas ? Est-ce qu'on peut être rassuré sur la provenance et les solutions qui sont trouvées au Bangladesh ou pas lorsqu'on achète des vêtements de grandes marques en Belgique aujourd'hui ?
Alors, ce programme, il s'appelle maintenant l'accord international sur la santé et la sécurité. Donc, une nouvelle version a été mise en place en 2021. Cette nouvelle version est signée par 195 entreprises, parmi lesquelles on va retrouver des grands noms de la fast fashion de nos rues commerçantes, que ce soit CEA, que ce soit H&M, que ce soit Primark ou Inditex, sont signataires de ce programme. En revanche, d'autres entreprises ne le sont pas. Et je peux citer par exemple Levi's, Ikea, Decathlon, qui s'approvisionnent au Bangladesh et qui ne sont pas signataires.
Marques, hein.
Et ce ne sont pas des petites enseignes. Faut dire qu'au Bangladesh, donc là, on estime que le programme peut couvrir 2 millions de travailleurs et travailleuses. Au Bangladesh, c'est bien le double qui travaille dans l'industrie textile. Donc, on continue à demander à ce que toutes les entreprises qui s'approvisionnent au Bangladesh et plus récemment au Pakistan, puisque le programme vient d'être étendu au Pakistan à la fin 2022, s'engagent dans l'exemple le plus probant à ce jour pour endiguer les enjeux de sécurité des usines.
Alors cet accord dont vous nous dites que tout de même il fonctionne, il a apporté des résultats, il a été récemment élargi au Pakistan. Est-ce que cet accord auquel ont donc souscrit les marques, comment est-ce qu'on vérifie aujourd'hui que toutes les normes sont bien respectées et que cet accord est respecté ?
Une des grosses plus-values de cet accord, c'est qu'il est extrêmement transparent sur ces processus. Et donc, les rapports d'audit, d'inspection, etc. sont accessibles. Et donc, si on va sur le site de cet accord, on a accès aux détails et on a accès aussi à la marge de progression par rapport aux enjeux qui ont été soulevés dans une inspection d'usine. On peut suivre la marge de progression et les marques et enseignes doivent s'engager à participer financièrement à résoudre les problèmes qui sont identifiés. Donc, c'est vraiment l'exemple le plus transparent. Les audits classiques ne sont pas transparents.
D'accord. Alors, on entend bien qu'il y a une vraie question autour de la régulation des entreprises. Parallèlement, au drame du Rana Plaza émergeait un concept, celui du devoir de vigilance. Les entreprises qui travaillaient au Rana Plaza sont des sous-traitants des grandes marques. Ce ne sont pas les usines elles-mêmes des grandes marques. Or, il faudrait que ces marques soient responsables des violations des droits de l'homme et des dégâts environnementaux de toutes les chaînes de valeur dans le secteur de la mode et du textile désormais. Mais mondialisé, c'est ça, en gros, le devoir de vigilance.
Eh bien, une directive européenne aujourd'hui sur le devoir de vigilance doit être votée par le Parlement européen au sein de la Commission des affaires juridiques. Alors, où en est-on concrètement pour le savoir? J'ai passé un coup de téléphone à l'eurodéputée écolo Saskia Bricmont, qui est très active sur cette directive.
On vient, il y a deux jours, de conclure un accord au niveau du Parlement européen, donc les textes sont enfin négociés et ils améliorent substantiellement la proposition initiale de la Commission européenne. La validation finale du texte doit avoir lieu fin avril au Parlement européen. Il ne devrait pas y avoir de surprise, même si pour l'instant le PPE, donc qui est le plus grand groupe politique conservateur du Parlement, est à bord. Donc ce qui est quand même une victoire, puisque de facto, c'est pas le groupe qui est le plus favorable à mettre des règles en place pour les entreprises. Mais néanmoins, il est à bord. Il se peut qu'il y ait des membres réfractaires au sein de ce groupe, mais je ne pense pas que ça va faire balancer une majorité politique en faveur du texte.
Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte ?
Eh bien, ce qu'il y a dans ce texte, c'est vraiment l'obligation pour les entreprises de plus de 250 travailleurs. Donc, ça ne touchera pas les PME, mais ça touchera les plus grandes entreprises à ce stade, de remplir des obligations sociales et environnementales. Donc, clairement, pour toutes les entreprises européennes, leur obligation de devoir de vigilance en matière sociale et environnementale va être renforcée et obligatoire désormais. Et donc, on ne pourra plus fonctionner dans un système de greenwashing comme malheureusement encore trop d'entreprises et de marques, notamment dans le secteur textile, se trouvent. Et puis, il y aura aussi une dimension internationale à cette directive, puisque c'est les sous-traitants avec lesquels ces entreprises travaillent qui devront aussi respecter des normes sociales, environnementales, puisque les entreprises concernées par la directive auront cette obligation de prouver que tout au long de la chaîne, les mêmes critères sont respectés, et ça, c'est essentiel.
Pour vous, elle va suffisamment loin, cette directive ?
La directive ne va pas suffisamment loin, parce qu'on aurait souhaité, d'ailleurs avec le secteur lui-même, que les PME soient également couvertes, qu'en fait, toutes les entreprises soient soumises à des normes sociales, environnementales contraignantes, pour des raisons de compétitivité entre elles, pour faire en sorte que les mêmes règles s'appliquent à l'ensemble des entreprises et à l'ensemble du secteur économique. Il n'y a pas de raison que certaines y échappent. Là où, effectivement, la différence s'installe, c'est quand il y a une grande entreprise qui a les moyens de mettre une équipe à disposition pour assurer ses contrôles, de l'autre, des plus petites PME qui n'en ont pas les moyens. Donc, les règles peuvent être adaptées en fonction de la taille des entreprises et des secteurs concernés. Donc, elle ne va pas assez loin en termes de nombre d'entreprises couvertes. Mais la directive pourra être revue, puisqu'il y a une clause de rendez-vous qui est prévue pour analyser sa mise en œuvre et faire en sorte aussi de pouvoir réouvrir la directive et l'étendre. Là où nous, on a obtenu au Parlement européen une amélioration substantielle, c'est que la proposition initiale couvrait des secteurs essentiels, enfin, considérés comme à risque, comme par exemple typiquement le secteur textile, ce qui était une bonne chose, mais pas suffisante. Nous, on a étendu la directive pour qu'elle s'applique à l'ensemble des secteurs. Et donc ça, c'est aussi une avancée qui est vraiment positive.
À partir de quand est-ce que cette directive pourrait entrer en vigueur et qu'est-ce qui peut encore la freiner ?
Eh bien, ce qui peut encore la freiner, ce sont les États membres, puisque une fois que le Parlement européen a défini sa position, il entre en négociation avec le Conseil qui représente les États membres, nos gouvernements. Et on sait que parmi nos gouvernements, certains sont plutôt demandeurs d'avancées, ont eux-mêmes déjà adopté des législations nationales qui vont dans cette direction. D'autres qui sont plutôt soit attentistes, soit réfractaires à l'idée d'imposer des règles à leurs entreprises. Et donc là, négociation ne va pas être évidente. Les choses ne vont pas être simples puisque notre ambition est plus importante que le texte initial et que certains gouvernements avaient déjà dit que le texte initial allait trop loin. Donc on va effectivement devoir négocier. Ce qui sera important maintenant, c'est que la pression, notamment de la société civile, les rendez-vous, comme celui qui va se tenir la semaine prochaine dans le cadre de la commémoration du drame du Rana Plaza, Plaza que, dont on parle aujourd'hui, sont clés pour continuer à mettre effectivement une pression sur nos gouvernements. Et puis je pense sincèrement que les consommateurs, les consommatrices sont aussi de plus en plus en attente de règles claires pour sortir de ce greenwashing des entreprises et savoir ce qu'on achète, savoir ce qu'il y a derrière et savoir si les droits des travailleurs, des travailleuses en l'occurrence dans le secteur textile sont respectés et les normes environnementales aussi, puisqu'on ne veut plus contribuer par nos achats à s'asseoir sur les droits des travailleurs et sur l'environnement.
Sana Abdesalem, est-ce que cette directive européenne sur le devoir de vigilance, pour vous, elle va suffisamment loin ?
La directive en l'état ne va pas suffisamment loin. Elle a évidemment le mérite d'exister, mais il y a encore beaucoup de critères qui manquent selon nous. Un des critères principaux, c'est le fait que ça puisse concerner toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur. Il y a évidemment une proportionnalité d'action. Enfin, c'est le devoir de vigilance.
Une PME ne peut pas avoir probablement un impact aussi important qu'une grande marque qui a beaucoup plus de moyens.
Elle se doit néanmoins de mettre en œuvre ce qui est à sa portée. Et ça, le texte doit le prévoir et ne doit pas exclure des entreprises du principe essentiel au cœur de la directive, qui est être responsable de ces chaînes de valeur. Et ça doit s'appliquer à tous. Et en réalité, ça existe déjà dans des principes directeurs au niveau des Nations Unies depuis 2011, des principes sur lesquels les États se sont déjà accordés. Si une directive européenne va en deçà de ces standards, c'est absolument contre-productif à ce stade.
La première,
l'histoire continue. Bertrand N. Hélène Maquet.
Sana Abdesalem, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'industrie de la mode en 10 ans a changé fondamentalement ? Quand on voit l'explosion du commerce en ligne, de marques comme Shein, la marque chinoise qui fait de la fast fashion à un niveau quasiment jamais atteint jusqu'ici, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un mouvement où la fast fashion est en train de disparaître au profit d'une mode éthique et propre ? C'est pas forcément le sentiment qu'on a.
Non, effectivement, c'est pas le sentiment qu'on a, c'est pas ce qu'on observe dans le modèle économique sur lequel l'industrie est basée, sur ses pratiques d'achat agressives, sur la pression qu'elles exercent sur leurs usines sous-traitantes et in fine sur les travailleurs et travailleuses. Des conditions de travail déplorables sont toujours observées, des salaires extrêmement bas sont toujours observés, et donc il y a vraiment ce paradoxe ambiant où on a des grandes enseignes qui vont complètement inclure dans leur communication, dans leur marketing, des principes de respect de l'environnement, de respect des droits humains. En revanche, dans leur chaîne d'approvisionnement, c'est absolument pas vérifié. Et puis d'autres acteurs qui débarquent sur la vente en ligne exclusivement, comme Shein, comme Boohoo, et qui, là, ne vont se soucier absolument de rien, qui vont vendre à des prix encore plus bas et dans des quantités astronomiques.
Et est-ce qu'aujourd'hui, une mode plus propre, plus éthique, est-ce qu'elle est accessible ? Est-ce qu'on peut se la payer en tant que consommateur, je dirais un peu moyen ?
Mais pour le moment, ce qui est extrêmement difficile, c'est de dire quelle est cette mode qui réellement respecte les droits humains et l'environnement. Dans l'état actuel de l'industrie textile, même les marques les plus volontaires et qui souhaitent inclure des principes de respect des droits humains sont confrontées aux mêmes limites de ce système, d'où la nécessité de réguler et d'où la nécessité que les règles du jeu soient les mêmes pour toutes et tous.
Et d'autant plus qu'il y a aussi un déplacement entre Bangladesh, Pakistan et puis peut-être demain des pays d'Afrique. Enfin, ça risque aussi de continuellement passer d'un pays à l'autre, une sorte de chaîne sans fin.
Et c'est bien le cas aujourd'hui. Des usines en Éthiopie, au Lesotho, des grandes enseignes qui vont s'approvisionner dans des pays qui vont eux-mêmes prôner le fait que leur main-d'œuvre est encore moins chère qu'ailleurs.
Et encore moins bien protégée.
Exactement. Mais donc ça continue de mettre en concurrence les usines entre elles, mais les pays de production entre eux aussi.
Alors est-ce que forcément, quelque part, mécaniquement, la solution, ce serait de réduire la taille de ces grandes chaînes de valeur. Est-ce qu'on peut dire que plus une chaîne de valeur est longue, plus elle va avoir de sous-traitants qui vont être placés loin dans le monde géographiquement entre des pays du tiers-monde et des consommateurs qui sont en Europe, aux États-Unis, etc. Est-ce qu'en diminuant Et donc, est-ce qu'en relocalisant, en gros c'est ça la question, est-ce qu'en relocalisant et en diminuant la taille de ces chaînes de valeur, quelque part un peu mécaniquement, on va avoir un impact sur le respect des droits humains ?
Alors, que ces entreprises, que ces enseignes, que ces marques de mode aient une meilleure maîtrise de leur chaîne de valeur, ça c'est évident. En revanche, ce qu'on observe aujourd'hui dans des usines ou des pays de production qui sont plus proches de là où les produits sont vendus, donc on pense notamment à l'Europe, avec des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, l'Italie, voire même le Royaume-Uni, où encore pas mal de production textile s'opère et se commercialise à proximité, les conditions de travail aujourd'hui dans ces usines ne sont pas nécessairement meilleures. Proportionnellement au coût de la vie, le salaire est même plus bas pour ces travailleurs et travailleuses que ça ne le serait dans des pays asiatiques. Enfin, donc aujourd'hui, la relocalisation en l'état n'est pas une baguette magique. Il faut une meilleure maîtrise des chaînes de valeur, il faut évidemment tenir compte aussi d'enjeux environnementaux, mais les règles ne sont pas nécessairement plus respectées parce qu'on produit à proximité des rues commerçantes.
Ça veut dire que c'est le modèle entier qui doit continuer à se repenser.
Exactement.
Merci beaucoup Sana Abdesalem.
Merci à vous.
J'ai Achakt d'avoir été avec nous aujourd'hui pour faire résonner cette histoire dramatique survenue il y a tout juste 10 ans au Bangladesh, l'effondrement de cette usine de confection, le Rana Plaza. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et on rappelle qu'on peut retrouver toutes nos émissions facilement sur toutes les applications de podcast et sur Ovio, bien sûr.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue.
Avec l'aide des archives de la Sonuma et à la réalisation Jonathan Remy.